Je vous invite maintenant à prendre vos Bibles et de les ouvrir dans la première épître de Jean, 1 Jean chapitre 3, le verset 1 à 3. Et un deuxième texte qui est dans l'épître de Paul aux Galates, au chapitre 4 et les versets 4 à 7. Galates 4, les versets 4 à 7. Nous commençons par Jean. 1 Jean 3, versets 1 à 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné parce que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Galates 4, 4 à 7. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme née sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Puisse le Seigneur bénir la lecture de sa parole et sa sainte influence dans notre vie. Amen.
Chers amis, bonjour à tous. Permettez-moi de vous souhaiter de bonnes vacances pour ceux qui seraient en vacances. Il y a des visages non pas inconnus, mais que nous sommes heureux de revoir. Et nous imaginons que si tel est le cas, c'est parce que le temps le permet. Et si le temps le permet, c'est parce que les vacances sont au rendez-vous. Alors, bonnes vacances à tous et bonnes vacances aussi à ceux qui, dès cette semaine, j'en connais certains, partiront vers d'autres cieux. Je ne sais pas vous, mais lorsque nous parlons de vacances, nous parlons souvent de retrouvailles familiales. D'ailleurs, je pense à beaucoup de nos frères et sœurs antillais qui retournent en Martinique ou en Guadeloupe pour retrouver père, mère, sœur, etc. Nous aimons ces temps de retrouvailles. Pourquoi ? Parce qu'elles sont familiales. Et s'il est une valeur cardinale, malgré tout ce que l'on peut dire de notre société, c'est quand même ce lien familial très fort qui nous unit et nous pousse à parcourir bien des kilomètres parfois pour nous retrouver et continuer de vivre, vérifier ces sentiments d'amour familiaux forts qui nous unissent et se tissent à mesure de relations d'ailleurs. Si nous sommes dans la société un chef d'entreprise, un employé, un salarié, que sais-je, nous sommes avant tout un père, une mère, un fils, une fille, un frère, une sœur. C'est cela d'abord l'important dans la vie. Aussi, si nous essayons d'appliquer cette importance dans le domaine religieux, nous pouvons, je le crois logiquement, imaginer que Dieu puisse aussi jouer de ces relations aussi importantes, familiales, pour nous inviter à mieux le comprendre, à mieux nous comprendre, pour nous inviter aussi à bien comprendre ce fameux plan du salut. Et j'aimerais ce matin que nous puissions nous entretenir un peu de ce sujet. Je crois que nous aurions tout intérêt à ne plus appeler le plan du salut le plan du salut, mais le plan de l'adoption. Pourquoi ? Eh bien, premièrement, parce que ça parle beaucoup plus. Que nous soyons dans l'Église et donc initiés, que nous soyons à l'extérieur de l'Église et sans culture chrétienne bien souvent, lorsque nous parlons d'adoption, tout le monde comprend. D'autre part, il me semble que cette notion d'adoption, universellement, entre guillemets, comprise, revêt aussi des tenants, des aboutissants qui donnent à ce plan de sauvetage un éventail large et donc juste de ce qu'il est. En effet, lorsque nous parlons d'adoption, nous parlons de répercussions émotionnelles, psychologiques. Celui qui se sent adopté et qui légalement a le droit de l'être se sent du coup aimé, réconforté, valorisé. Lorsque nous parlons d'adoption, nous avons d'ailleurs introduit les quelques mots de ce matin par cela, de relations familiales étroites. Et enfin, lorsque nous parlons d'adoption, nous parlons de processus juridique qui permet à un moment donné, après bien des enquêtes, d'entériner l'acte d'adoption. Voilà donc un concept que le Nouveau Testament d'ailleurs utilise pour nous parler du salut et que nous devrions utiliser aussi abondamment à notre tour pour expliquer ce plan finalement de réconciliation entre un Père, Dieu, des enfants, nous, afin que bientôt le royaume de Dieu, nous puissions dans ce lieu tous être réunis. Voilà donc cette idée, ce concept d'adoption qui nous est proposé ce matin et sur lequel nous allons nous arrêter quelques instants. Remarquez, lorsque nous parlons d'adoption, que nous légitimons et peut-être facilitons l'un des dogmes chrétiens fondamentaux, mais les plus difficiles d'accès intellectuel et théologique. Lorsque nous suggérons l'idée d'adoption entre Dieu et ses enfants, c'est-à-dire nous, nous légitimons quelque part cette croyance fondamentale chrétienne qui fait de Dieu un être trinitaire, Père, Fils, Esprit. La simple notion d'adoption, parce que impliquant une dimension familiale forte, nous aide à apprécier, pour ne pas dire accepter, celle par laquelle le Dieu biblique révélé se présente, à savoir Père, Fils et Esprit. D'autre part, la notion d'adoption nous invite aussi à mener une réflexion sur notre nature propre, ce que nous sommes. Lorsque nous pensons à cet amour de Dieu manifesté en termes d'adoption, nous sommes invités à réfléchir à ce que nous sommes, à nous interroger sur nos êtres en profondeur et à comprendre dès lors ce qui chez nous pose problème, fait que nous ne sommes peut-être pas encore des hommes, des femmes adoptés, c'est-à-dire des fils, des filles de Dieu. Et dès lors que cette réflexion naît, nous nous engageons, si elle est bien menée, sur ce chemin d'adoption. Lorsque nous réfléchissons à la notion d'adoption, et si nous nous plaçons maintenant sur le plan légal, nous allons être amenés à nous demander ce qui, juridiquement parlant, permettra à Dieu de nous considérer à un moment donné adoptés et ce qui, juridiquement parlant, toujours nous permettra à nous de nous considérer adoptés et de vivre surtout cette réalité. Bref, vous voyez que cette notion d'adoption est riche. Elle implique un certain nombre d'orientations forte, indispensable, fondamentale du christianisme et nous pousse à travers les questions ainsi suscitées à entrer, je le crois, dans l'adoption de ce plan d'adoption. Enfin, lorsque nous parlons d'adoption, nous parlons de problème. Je ne sais pas si vous connaissez des parents qui ont adopté des enfants. Personnellement, oui. Il y a à la base un problème. Soit biologique, soit autre. Mais il y a un problème au moins parental. Le problème n'est pas que parental. Il peut aussi s'agir du problème de l'enfant, qui a peut-être, à l'occasion d'un accident, perdu ses parents, ou à l'occasion de quelques circonstances souvent dramatiques de vie, en est peut-être réduit à devenir un être adopté. La notion d'adoption nous invite à penser qu'il y a problème quelque part. Et ces problèmes vont bien évidemment être pensés au niveau des principaux acteurs, d'abord de Dieu. Quel est donc le problème qui fait que Dieu a besoin d'adopter certaines de ses créatures, nous en l'occurrence? Et nous sommes, grâce à cette notion d'adoption, invités à revenir à l'origine de la problématique humaine. Et nous avons déjà dans nos esprits ainsi éclairés certains textes de la Genèse, peut-être même tout le livre de Job, où nous assistons à un duel épique entre Dieu, qui se présente tel un père aimant, mais aussi un fils et un esprit, et d'un autre côté son adversaire. Dès qu'il y a adversaire, il y a forcément problème. Qui lui conteste ce statut, conteste ses affirmations. Dieu a-t-il réellement dit ? Ce qui suggère qu'il est menteur. Et devant toute l'assemblée des fils de Dieu, mais Dieu sait très bien que Job le sert parce qu'il a intérêt. Dieu est encore une fois menteur. Il y a un problème d'accusation, qui se traduit de facto par une conséquence filiale. Du simple fait de ces accusations, Dieu ne peut plus être le père de ses enfants. Mais il y a aussi un problème suggéré par la notion d'adoption qui se situe chez l'enfant. L'enfant est aussi quelque part responsable dans cette brisure, dans cette cassure. Tout n'est pas le fait de l'accusateur. Celui qui a écouté l'accusateur est aussi impliqué, car il l'a tout simplement écouté. Il a cru, en effet, que le père n'était pas forcément aimant, mais peut-être despote, et qu'il y avait, à travers l'impératif de la loi que le Père demandait à chacune de ses créatures, non pas une injonction d'amour, mais tout simplement un outil pour asseoir l'autorité divine sur l'ensemble de sa création. Et le Fils, vous et moi, a écouté. Et il s'est donc lui aussi positionné dans une logique de rupture qui fait qu'il n'est plus Fils, et s'il veut le redevenir, il faudra qu'il passe par le process de l'adoption. Voilà donc des questions, des problèmes suggérés par la simple évocation de cette notion d'adoption. Et on pourrait en souligner d'autres. Celui de ceux et celles qui regardent cette scène épique entre Dieu et son adversaire, entre Dieu et même nous, et qui se brandissent en spectateurs sceptiques, ne sachant pas s'il faudra opter pour Dieu, s'il faudra opter pour son adversaire, se positionnant et campant. Il y a aussi, pas nombreux, c'est vrai, quelques textes qui dans la Bible nous permettent de voir ainsi le problème ou les problèmes suggérés par la notion d'adoption. Cette notion d'adoption, elle nous invite aussi à réfléchir à la notion de souffrance. Je vous disais il y a un instant que je connais dans mon entourage familial un papa et une maman qui ont adopté des enfants, et il n'est pas sans dire que le processus d'adoption est un processus souvent très long, qui s'étale parfois sur des années. Et nous voyons, lorsque s'amorce le processus et lorsque défilent les années, toute l'espérance des parents adoptifs potentiels fluctuer en fonction des avancées du dossier. Ce qui nous amène à considérer toute la souffrance inhérente à l'absence de l'enfant et tout l'espoir suggéré par la possibilité de l'adoption. Et j'aime imaginer que Dieu, qui pour les raisons que nous venons d'évoquer est coupé de ses enfants et a soif d'adoption, de telles souffrances chez lui. Ce qui nous invite à comprendre Dieu non pas comme cet être immaculé, hyperpuissant, qui se loverait dans les cieux, mais avoir en plus de tout cela un être sensible, un être un peu comme vous et moi, et certainement mieux, même en tout cela. Ce qui peut-être nous invite à nous approcher de ce Dieu, dès lors que nous comprenons, lorsque nous touchons la souffrance d'un être en difficulté, si un tant soit peu humain nous sommes, nous voulons nous approcher de lui pour l'aider et regarder d'ailleurs les témoignages qui nous sont aujourd'hui donnés de cet accident de train à Brétigny. Voilà une dame qui était sur le quai au moment où l'accident a eu lieu. Elle dit qu'elle était tétanisée, ne pouvant plus bouger, et par la peur, mais aussi par l'effroi de tous ces morts qu'elle devinait, morts ensanglantés, on peut l'imaginer. Et le mari, lui, à ses côtés, qui est capable de mettre sa famille, voire l'oublier, pour se porter au secours instinctif de ceux et celles qui venaient d'être victimes de cet accident. Les souffrances de Dieu, parce que nous ne pouvons plus être ses enfants, sont aussi plus prégnantes, plus évidentes, lorsque nous comprenons le plan de réconciliation comme un plan d'adoption et pas forcément un plan de salut. On comprend dès lors que nous acceptons ce vocable et ses conséquences, que finalement Dieu est un être qui aime, c'est vrai, mais qui a aussi besoin d'être aimé. Et qui pour cela a besoin du retour d'un fils aimant, aimable et aimé, du coup. Voilà pourquoi besoin d'adoption, nécessité d'adoption. On aurait pu aussi parler des souffrances du fils dont il n'a souvent pas conscience. Nous vivons, qui que nous soyons, de quelque culture que nous provenions, une existence précaire. Et parce que finalement le référentiel que nous connaissons n'est que celui que nous expérimentons, nous finissons par nous habituer à cette précarité, à faire avec. Mais si nous arrivions un tant soit peu à objectiver cette situation, c'est-à-dire à nous sortir de ce référentiel, à nous poster en observateur de notre propre expérience, nous verrions que nous sommes dans une situation difficile, compliquée. C'est pour ça que la Bible utilise un mot si singulier, le péché. Péché égale maladie, péché égale souffrance. Voilà notre lot, car nous sommes tous porteurs d'une nature de péché et de mort, nous dira Paul. Et le drame dans tout cela, c'est que souvent, parce que la vie, parce que les circonstances, parce que tout ce que nous voudrons, nous n'avons même plus conscience de cet état, de ces difficultés, de notre souffrance. Un petit peu comme si tout pouvait s'enfouir au plus profond de nos êtres et consciences tourmentées. Il y a aussi place à de la souffrance pour ceux et celles, vous et moi, qui avons besoin d'être adoptés. Adoption rime donc avec problème. Adoption rime donc avec souffrance. Adoption rime aussi avec solution parfois difficile pour enfin acquérir ce statut. Pour que nous puissions être adoptés par Dieu, il fallait dans un premier temps que Dieu nous donne envie de lui. Ce qui lui pose quand même un sacré problème, car ce Dieu immaculé, je disais il y a un instant, nous aurions pu utiliser les attributs ou d'autres attributs divins que sont la gloire, la majesté, la dignité, tout un tas d'attributs qui font que nous ne pouvons plus supporter la présence physique réelle de Dieu. D'ailleurs, lorsque cette présence se manifeste à de grands hommes bibliques, j'en veux pour preuve Moïse, nous sentons chez celui-là, lorsque nous relisons le récit, le sentiment d'un danger. Cette présence divine implique de facto, auprès des êtres pécheurs que nous sommes, et si peu indignes, un danger, une menace de mort. Comment donc Dieu va pouvoir s'y prendre pour nous redonner envie de lui? Car après tout, si nous acceptons d'être adoptés par une personne, c'est parce que cette personne nous plaît. Comment donc Dieu va-t-il pouvoir nous plaire alors qu'il ne peut même plus se révéler? Et la solution, nous l'avons en l'incarnation du Christ. Elle devient logique. Elle devient intellectuellement plausible. Cette notion sort de ces ornières mystérieuses, mystiques, incompréhensibles par bien des courants monothéistes, parce que grâce à la notion d'adoption, nous la justifions. Et après tout, puisqu'il s'agit de l'affaire de Dieu, ne serait-il pas capable de s'incarner en homme, lui qui a été capable de tout créer, et qui, dès lors que nous lui attribuons la toute-puissance, pourrait en un claquement de doigts ou une seule pensée permettre tout ce que nous ne pouvons imaginer? Lorsque nous parlons des solutions relatives à l'adoption, nous devons aussi, pour que nous puissions nous comprendre ce à quoi nous devons nous attendre si nous acceptons l'adoption, qu'un modèle comportemental nous soit proposé, qu'un exemple nous soit donné. Cet exemple, c'est Jésus, le Christ, qui n'est autre par ce processus d'incarnation que Dieu lui-même qui se fait homme et qui vient nous indiquer, si nous désirons être adoptés, comment nous devrions fonctionner. Jésus devient un modèle. Un exemple. Il devient le premier-né, le prototokos, dirait le grec du Nouveau Testament. Le premier-né d'une nouvelle génération, une génération d'hommes et de femmes adoptés de Dieu, qui sont, parce qu'ils ont accepté l'adoption, parce qu'ils ont validé toutes les conditions qui autorisent l'adoption, qui sont devenus de ce fait des frères et des sœurs de ce modèle qu'est Jésus-Christ. Il va sans dire que lorsque nous voulons être adoptés, lorsque nous désirons être adoptés, lorsqu'une famille désire nous être adoptés, il ne s'agit pas que d'affirmer des sentiments réciproques et affectifs ou affectueux. Il s'agit aussi de s'engager au respect des règles de la maisonnée. Il s'agit aussi de reconnaître les fonctions, les prérogatives de chacune des parties constituant la nouvelle famille. Il s'agit de se mettre d'accord sur cet ensemble de choses et de faits et de signer notre désir de respect de tout cela. Et pour que nous puissions comprendre ce qui est attendu de nous, ce qui peut être attendu de Dieu et de toute cette famille qui se constitue dès lors que nous acceptons l'adoption, le modèle de vie humaine proposé par Jésus-Christ, réalisé par Jésus-Christ, nous est offert. Il s'agit d'une voie à suivre, d'un chemin à emprunter. Peut-être que ce chemin nous ferait peur, ou pourrait nous faire peur. Il est tellement haut, tellement beau, tellement digne, qu'il en finirait par nous décourager. Peut-être qu'il nous faut à ce moment-là exercer la foi et nous dire que si nous acceptons d'être adoptés et si pour cela nous acceptons de marcher sur ce chemin modélisé par le Christ, eh bien le Père, de même que le Fils, seront capables de nous donner toutes les armes, tous les outils, tout ce qui est nécessaire pour que nous puissions bien arpenter ce chemin. Une autre des solutions envisagées par la notion d'adoption, me semble-t-il, est celle de la cassure, de la renonciation, ou du renoncement, plus proprement. D'où vient le problème du mal ? Ben quelque part d'un renoncement. Nous n'avons plus voulu de Dieu, nous n'avons plus voulu de sa loi, nous avons, soufflé d'ailleurs par l'adversaire de Dieu, opté par une solution d'autonomie absolue, d'indépendance totale. Bref, le problème est à l'origine un problème de rupture de relation, de communication entre Dieu et nous. Nous pouvons donc imaginer que l'une des solutions proposées par la notion d'adoption insistera aussi sur le besoin, la nécessité d'une coupure, mais à contrario de celle que nous venons d'indiquer. Si nous acceptons le modèle proposé par Jésus-Christ et avec lui désirons vivre dans la famille de Dieu, telles des filles, des fils adoptés, donc adoptifs, respectueux des règles indiquées par l'exemple de vie de Jésus-Christ, avouez que nous allons devoir affirmer un renoncement. Paul est d'ailleurs très clair sur cette question, lorsqu'il nous parle du baptême. Rappelez-vous la cérémonie de baptême il y a 2 semaines de cela. Lorsque nous plongeons dans les eaux baptismales, c'est-à-dire lorsque nous posons l'acte public officiel qui témoigne de notre désir d'adoption, nous signifions un avant, nous signifions un après. Nous signifions que nous renonçons à une manière vile de vivre, c'est-à-dire autonome, égoïste, où nous nous brandissons tels des êtres indépendants de tout et de Dieu particulièrement, pour une nouvelle façon de vivre, où nous faisons acte d'allégeance à Dieu, non pas une allégeance seigneuriale et moyenâgeuse, une allégeance bien comprise. Nous avons eu le modèle de Jésus-Christ, nous l'avons observé, nous l'avons intégré, nous l'avons accepté, et nous reconnaissons que dans ce cadre, dans ce modèle, il est des places, des valeurs, des fonctions qui doivent être respectées. Un avant, un après. Nous renonçons avec les chemins proposés par l'ennemi de Dieu et optons par les nouveaux déblayés par l'Esprit de Dieu. Voilà aussi l'une des solutions suggérées par la notion d'adoption. Couper avec la logique du péché, avec cette folle utopie et ambition de l'indépendance humaine, indépendance éthique essentiellement et autre par voie de conséquence, pour renouer le contact avec un Dieu qui inspire chacune de nos pensées, de nos actes, afin de nous aider à vivre comme nous aurions toujours dû vivre si jamais nous ne nous étions séparés. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et cela fonctionne, chers frères et sœurs, à la condition que nous faisions acte de renoncement, nous aussi, dès lors que nous acceptons l'adoption que Dieu nous propose. Lorsque nous sommes fils et filles adoptives, il va sans dire, et c'est là la dernière des solutions, que nous nous approprions les richesses du père, les richesses de la mère, les richesses parentales. Et lorsque par voie baptismale, par exemple, nous affirmons, nous exprimons le désir de renoncer à tout ce que malheureusement notre société, notre humanité, notre civilisation expérimente, cette économie du péché, et désirons opter pour une autre économie, celle de la réconciliation avec Dieu, c'est-à-dire de la relation avec lui. Non seulement nous allons devoir nous acquitter de certains devoirs, mais nous allons aussi recevoir toutes les richesses du Maître, toutes les richesses du Père. Et la plus belle des richesses que le Père va pouvoir nous offrir, c'est lui-même. Nous appelons cela le Saint-Esprit. Et si tout à l'heure l'idée de dupliquer le modèle de Jésus-Christ pouvait peut-être nous effrayer, ne le soyons plus, parce que dès lors que l'Esprit est donné à l'individu, le secret qui était celui du Christ et qui lui permit de réaliser tout ce qu'il a réalisé nous est aussi donné. Se pose, il est vrai, la question de l'absolu de cette expérience nous concernant et de sa partialité. C'est une question à laquelle je ne répondrai pas ce matin. Mais regardons simplement que si nous possédons les richesses, et notamment la richesse du Père, eh bien alors nous pouvons nous engager pleinement sur le chemin de vie qu'il nous propose et revêtir l'une des solutions indiquées au problème de l'humanité par la notion d'adoption. Pourquoi être adopté? Et nous conclurons. À la fois, nous l'avons dit, parce que nous vivons des existences précaires, vous et moi. D'ailleurs, cette précarité n'est-elle pas indiquée par la résultante universelle à chacune de nos existences, la mort? Nous avons besoin d'être adoptés parce que, nous l'avons dit aussi, cela correspond à un besoin chez Dieu. Il est tout puissant, il est là-haut, mais il n'est pas que cela. Il est aussi sensible et affectif. Il a besoin d'un retour d'amour. Et lorsque certains de ses enfants, comme nous, nous nous sommes éloignés de lui, il ne peut souffrir cette idée, s'habituer à cette idée. Il a besoin de mettre en place un plan de réconciliation pour que nous puissions revenir. C'est là le concept de l'adoption. Pourquoi encore justifier l'adoption par Dieu aujourd'hui proposée ? Eh bien parce qu'il y a, nous l'avons aussi dit, des témoins plutôt neutres qui ne savent pas encore de quel côté se positionner, ou du moins jusqu'à un certain temps de l'humanité, je pense à la croix du Christ, ne le savaient pas. Et ne serait-ce que pour eux, il fallait que ce plan d'adoption se réalisât. Et nous pourrions ainsi lister un certain nombre de raisons qui justifieraient toutes de façon relativement adéquate ce plan d'adoption et le besoin de définir le plan du salut, non pas sur les bases de cette terminologie un petit peu difficile, salut, mais sur celle d'une autre terminologie beaucoup plus facile, adoption. La réponse est assez simple. Revenons à ces papas, à ces mamans qui souhaitent absolument adopter un enfant. Pourquoi ? Eh bien, pour expérimenter, pouvoir trouver en l'être adopté l'expression de leur amour. Et nous sommes tous des êtres qui avons besoin d'exprimer de l'amour, de même que de recevoir de l'amour. Mais il me semble que la finalité concrète de tout cela est une construction. Je viens d'une famille où j'ai toujours vu, de par l'activité de mon papa, des maisons se construire, et même parfois des bâtiments. Et j'ai toujours été sensible à ces temps qui s'organisaient lorsque le chantier était terminé, où tous ceux qui avaient participé à la réalisation se réunissaient pour vivre un dernier moment de convivialité, de repas ensemble, et quelque part à travers tout cela, regarder l'œuvre accomplie et se dire « j'y suis pour quelque chose ». Il y avait une sorte de jubilation à ce moment-là, tacite, enfouie, gênée presque, mais elle était là. Eh bien, en revenant à cette notion d'adoption, je crois qu'il y a un peu de cela. Dieu veut créer une famille, il veut réunir sa famille, il veut construire un édifice, sa famille. Il veut pour cela que nous puissions être le plus nombreux possible à réaliser cette construction. Cette construction, cet édifice, quel est-il ? Une famille, nous avons dit, un royaume, dirait la parole. En effet, qu'attendons-nous ? Les textes sont clairs, les prophéties tout autant. L'installation, l'instauration du royaume de Dieu, d'abord dans les cieux, ensuite sur terre. C'est cela la famille de Dieu. C'est à ce moment-là où ce Père aimant qu'est Dieu va pouvoir vivre avec ses enfants adoptés une relation d'amour filial pleine, totale, épanouissante pour toutes les parties. Voilà l'édifice aujourd'hui en construction et dont nous espérons que bientôt il pourra être inauguré. Il pourra être inauguré. Voilà aussi pourquoi regarder ce projet de réconciliation entre l'homme et Dieu, entre Dieu et l'homme, sous l'angle de l'adoption. Car il suggère, me semble-t-il, l'idée d'une réunion, l'idée d'une construction, l'idée d'un royaume, d'une grande maison. L'un des gros problèmes de notre société aujourd'hui n'est-il pas celui de l'individualisme ? Regardez, lorsque nous partons en été, voguer vers d'autres cieux, combien il est des appels, parfois même passant sur la télévision ou les radios, nous demandant de vérifier si la petite mamie ou le petit papy d'à côté a tout ce dont il a besoin. Dispose de tout ce dont il a besoin, c'est dire si aujourd'hui nous vivons dans une société ô combien marquée par l'individualisme. Le simple fait, par cette notion d'adoption, d'imaginer in fine une construction familiale, une grande maison de Dieu, justifie aussi d'utiliser cette notion pour parler de réconciliation plutôt qu'une autre. Vous savez, dans le cadre des projets d'évangélisation que j'ai la chance de pouvoir suivre à la Fédération, il en est un qui me tient particulièrement à cœur, c'est celui de la Beth Benitzion. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que la Beth Benitzion ? Ça veut dire la maison Beth Benitz des enfants, Zion de Sion. La maison des enfants de Sion, c'est le mot, c'est le label que l'Église adventiste mondiale a utilisé pour nommer les différentes synagogues adventistes qu'elle crée un petit peu partout dans le monde et notamment à Paris. Et j'avoue que j'aime ce mot, Beth Béni, la maison des enfants. Eh bien, je veux imaginer que lorsque nous regardons Dieu, et notamment son plan d'adoption, il nous invite à considérer in fine cette grande maison dans laquelle il appelle tous ses enfants, d'où qu'ils viennent, qui qu'ils soient. Voilà, je le crois, une raison aussi importante et suffisante pour nous inciter à considérer le plan du salut tel un plan d'adoption. Voilà ma prière pour chacun de nous ce matin. Amen.